pour moi. La différence est une composante de notre univers voulu par Dieu.
La différence.
Et vous remarquerez, dans le texte que nous lirons cet après-midi, selon son espèce,
ça revient constamment. Et donc les espèces sont différentes, puisque chacun a une particularité.
Elle permet
l'harmonie.
S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'harmonie possible.
Le sixième jour,
Dieu crée les animaux et l'homme. Une manière de dire
que l'homme, même s'il est à l'image de Dieu, ne se confond pas avec Dieu.
Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur,
de splendeur.
Et puis, après, on parle des animaux. Hein, vous remarquez la même chose dans le psaume. Une manière de dire que l'homme, même s'il est à l'image de Dieu, ne se confond pas avec Dieu. Il n'y a pas de confusion. Il fait aussi partie du monde animal. Le septième jour, l'être humain doit se rappeler qu'il est fait pour la bénédiction et la sanctification et pour vivre avec Dieu. Le sabbat. Il doit s'ouvrir à plus que lui-même.
Le sabbat est un chômage de soi pour être disponible à l'autre. C'est ça le sabbat, hein?
Je chôme, moi.
Pour l'autre. L'horizon de l'homme n'est pas uniquement terrestre,
il a en lui-même une autre dimension qui le relie à Dieu. Il y a un va-et-vient. Les prêtres déportés racontent leur foi. Quelle distance, c'est vrai qu'il y a une distance, même s'il y a une similitude, il y a une distance avec les convictions des Babyloniens. Et ceci nous amène à aller regarder le récit que font les Babyloniens de la création. Car ils ont aussi leur petite idée sur le sujet. Et voici le texte. L'auteur du poème babylonien semble s'être inspiré d'un spectacle typique du sud mésopotamien. Et qu'on peut encore contempler aujourd'hui, en se plaçant à l'aube d'un jour d'été sur le rivage irakien du Golfe, à l'embouchure du Châtel Arabe. Une brume épaisse masque l'horizon, de grandes mares d'eau douce, filtrant du sol détrempé, se mêlent aux eaux du fleuve et de la mer. Les plages de vases qui s'étendent à l'infini, des plages de vases qui s'étendent à l'infini, seuls quelques lambeaux sont pour l'instant visibles. La mer, le fleuve, la terre, le ciel se confondent en un immense chaos liquide. Et c'est bien ainsi que débute le récit, au moment où rien encore n'a été nommé, c'est-à-dire créé. Car pour les Mésopotamiens, rien ne pouvait exister qui n'eût un nom. Et où l'eau douce, Apsu, et la mer Tiamat forment encore un seul et unique élément. Ceci est de Charles Roux, sur la Mésopotamie, un petit livre sur la Mésopotamie, passionnant. Un petit livre qui, justement, essaie de nous montrer comment l'homme, en réfléchissant sur ce qu'il voit, fait apparaître dans son imagination toute une réflexion. Il y a la confusion. Et petit à petit, le soleil va venir sur les eaux, va éclairer tout, et va séparer. Les choses vont prendre du relief, comme nous disons. Et voilà ce qu'il raconte. Il ne raconte pas comment les choses se sont passées. Il raconte comment ça commence chaque jour. Enuma Elish Lana Bouchamamou. Lorsque en haut, le ciel n'était pas encore nommé. C'est comme ça que commence le poème. Qu'en bas, la terre n'avait pas de nom. Et la génitrice Tiamat, l'abîme, qui les enfante à tous, mêlait en un seul tout leurs eaux. On ne savait pas ce qui était eau salée et eau douce. On ne savait pas ce qui était terre, ce qui était mer, ce qui était ciel, ce qui était mer. qu'agglomérées n'étaient pas les pâtures, ni visibles les canets, alors que les dieux, que des dieux, aucun n'avait encore paru, n'était nommé d'un nom, ni pourvu d'un destin, de leur sein, les dieux furent créés. Voilà comment commence l'histoire. Et de fait, les dieux ont été créés, les premiers, et ont commencé à vivre et à se bagarrer les uns avec les autres. Vous voyez, c'est décrit suivant la manière de vivre des hommes. Et puis, comme il y avait des dieux forts et des dieux faibles, et que les dieux faibles devaient travailler pour les dieux forts, ils se sont dit, on va quand même essayer de se reposer. Et alors, on va créer d'autres êtres, un peu plus inférieurs, pour pouvoir faire le travail à notre place. Les hommes. Donc on voit comment on peut réfléchir de cette manière. La divinité, l'humanité. Dans le paysage que nous venons de décrire, des zones d'alluvion émergent peu à peu de la brume, à mesure que le soleil se lève et la dissipe, puis apparaît une ligne nette qui sépare les eaux marines et les eaux terrestres. Ainsi les premiers dieux qui émergent du chaos cosmique. L'Armu et la Hamu personnifient l'alluvion. Ils sont suivis d'Anshar et de Kishar, qui sont les horizons du ciel et de la terre. Anshar et Kishar s'unissent pour engendrer Anu, lequel engendre Ea. D'autres dieux naissent ensuite. Mais on ne nous dit rien d'eux, sinon qu'ils sont turbulents et bruyants et perturbent le sein de Tiamat. Tiamat, Apsu et son lieutenant Mummu décident de les anéantir. Mais Ea, ami des dieux, comme il l'est de l'homme, fait échouer ce complot. Il jette sur Mummu un sort qui le paralyse, endort Apsu, l'enchaîne, s'empare de sa couronne, puis le tue. Il se retire alors dans sa demeure fondée sur les abysses de l'Apsu, et avec son épouse Damkinath, engendre un fils Marduk, doué de qualités remarquables. Et ce Marduk, c'est l'image du soleil qui va tout distinguer. Vous voyez comment on commence à écrire. Mais ces poèmes étaient récités au jour du Nouvel An, en Mésopotamie, à Babylone. Et donc, les Juifs dispersés à Babylone avaient pu entendre ce discours, ce texte ou d'autres textes. On en a découvert plusieurs dizaines, mais ils sont plus ou moins perturbés parce que tout n'a pas été conservé. Et donc voilà ce qui commence à meubler non seulement la mémoire des Mésopotamiens, des Babyloniens, mais à meubler aussi la mémoire du peuple juif, et notamment de ses prêtres, qui parlant la langue du pays, comprenaient. Quelle distance avec les convictions des Babyloniens où les dieux jaloux des hommes font en sorte que les hommes vivent dans la terreur. Le dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, est le dieu de l'univers de tous les hommes. Vous voyez, pour prendre distance, comme dans le psaume d'ailleurs, pour prendre distance par rapport à cette mentalité, la réflexion qui a été plus loin ici. Donc non, il n'y a pas des dieux, il n'y en a qu'un. Et s'il n'y en a qu'un, il est celui de tout l'univers. Et s'il est celui de tout l'univers, le dieu que désigne à travers leurs images, les Babyloniens et le Dieu d'Israël sont probablement le même. Vous voyez ? Il y a toute une réflexion qui se fait là. Il nous appelle à vivre la différence, le respect de l'univers, le respect des autres hommes, à découvrir notre dimension spirituelle. Ce Dieu se communique à nous par sa parole. Est-ce un hasard si l'expression « Dieu dit » revient 10 fois dans le poème, rappelant les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements, donnés à Moïse sur le Sinaï, les 10 paroles de l'Alliance. Donc, cette récurrence du terme « Dieu dit » 10 fois, nous annonce aussi quelque chose. Nous annonce que si les prêtres font intervenir Dieu par 10 paroles ici, c'est déjà qu'ils ont en tête un schème de 10 paroles. Qui existe préalablement. Quoi qu'il puisse arriver, épreuve ou catastrophe,
le croyant au Dieu de la Bible ne peut désespérer. Voilà une leçon que l'on peut retirer, en tout cas, de ce texte, et de la manière dont ce texte est composé. Nous le verrons cet après-midi. Quoi qu'il puisse arriver, épreuve ou catastrophe, le croyant Dieu, au Dieu de la Bible, ne peut désespérer. Dieu nous aime et nous appelle au bonheur. Les épreuves et les catastrophes ne sont pas voulues par lui. Alors que dans le poème babylonien, ces épreuves et ces catastrophes étaient souvent l'effet de la mauvaise humeur ou de la bonne humeur des dieux, ou de leur partialité vis-à-vis de tel ou tel homme. Voulez-vous savoir le secret de ces hommes et de ces femmes qui chantaient ce poème pour survivre, alors qu'ils avaient tout perdu? La foi. La foi, aujourd'hui encore, ce secret nous est donné si nous l'accueillons. Vous voyez, c'est présenté de façon simple, assez facile. Nous verrons qu'on peut approfondir davantage, nous le ferons cet après-midi. Mais c'est vrai qu'il y a une vision de foi qui apparaît là. Et il faudra essayer de découvrir, mais en quoi ou à quoi croyait-il? En quel Dieu? Comment sont-ils arrivés à cette perception d'un Dieu unique face à cette multiplicité de dieux qu'ils voyaient présents à Babylone, même si il y avait une prépondérance de Marduk. Marduk, le soleil. Vous aurez la même chose en Égypte, nous le verrons cet après-midi. Là aussi, c'est le soleil, c'est Ra, le dieu Ra, celui qui donne la fécondité, celui qui donne la vie. Mais voyez que tous ces poèmes, aussi bien égyptiens que babyloniens, par exemple, introduisent dans le monde des dieux, non pas seulement une distinction, une séparation, mais une division, une lutte des uns contre les autres. Donc c'est une projection des luttes des uns contre les peuples, les uns contre les autres, que nous voyons sur terre. Tout cela est transposé dans le chef des dieux. Pourquoi? Pour dire que nos luttes, nos manières de nous opposer les uns aux autres, ne sont pas une chose dont nous sommes responsables. La responsabilité nous est déjà, en quelque sorte, ôtée parce que les dieux nous ont donné ce modèle-là. Voilà comment les choses sont perçues. Alors, face à ce type de mentalité, ce type de perception, comment et pourquoi ces prêtres du 5e siècle, 6e, 5e siècle, comment ont-ils réagi et pourquoi ont-ils composé ce poème de la création au départ? Nous verrons ça cet après-midi. Distinguer révélation et inspiration. On dit que les livres sont inspirés. Les livres sont inspirés. Quand on parle de révélation, on distingue deux révélations. On distingue la révélation qui est à partir de la création, à partir de la nature, disons plus exactement, c'est-à-dire une révélation qui est donnée à tout homme, en fait, et qui est une certaine présence active de Dieu dans l'homme, et qui débouche, qui aboutit à une prise de conscience.
C'est la voie de la conscience en particulier.
La voie de la conscience est plus personnelle. La révélation est plus dans l'ordre de la connaissance et plus universelle. Donc, tu vois, en théologie, on distinguera les deux choses. On parlera d'une révélation humaine, en quelque sorte quasi universelle, c'est-à-dire quelque chose à laquelle l'homme peut accéder selon le Concile de Trente, selon le premier Concile du Vatican. L'homme peut, à partir de ses forces, de la force de son intelligence, il peut découvrir la réalité de Dieu, et même un Dieu personnel. C'est ce que le Vatican I, qu'il a souligné, et c'est vrai. Et on peut dire que ça, c'est une illumination intérieure qui peut être donnée à toute intelligence humaine. Toute intelligence humaine. Ça ne veut pas dire que chacun y arrive. Hein? Mais il peut.
Ça s'appuie sur l'Épître aux Romains.
C'est ça. Ce sont les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Exactement. Tandis que ce qu'on appelle révélation au sens strict, c'est révélation surtout à travers l'histoire. Hein? C'est pour ça qu'en théologie, on distinguera la révélation à travers l'humanité, l'homme, la réalité humaine, la création, dira-t-on, ou la nature. Et puis la révélation à travers l'histoire, alors là, ça s'applique davantage au monothéisme judéo-chrétien musulman. Hein? Trois religions monothéistes. Donc, la révélation, c'est au fond une illumination de l'intelligence par Dieu qui est donnée à tout homme bien constitué. Hein? Quand on dit tout homme, évidemment, hein, ça veut dire d'une manière générale et abstraite, donnée à tout homme. Tout homme peut arriver à la connaissance de Dieu. C'est ça la révélation. La révélation qu'on dit dans la Bible, c'est à travers un chemin historique de révélation, c'est-à-dire d'illumination progressive de l'homme, hein, par son intervention. Il faudra encore mettre des bémols à ce terme d'intervention, à son intervention dans l'histoire des hommes. On parle alors de révélation stricte sensu, comme on dit, hein, au sens strict, c'est-à-dire cette révélation qui est contenue dans ce livre. Est contenue dans ce livre. On dit que ce livre fait partie de la révélation au sens strict, c'est-à-dire hein, suivant cette présence de Dieu intervenant dans l'histoire des hommes. Alors, quand on dit que ces livres, ça c'est un concept tout à fait chrétien, de parler de... oui, chrétien, je dis bien. Hein, parler d'inspiration, parce que le juif ne dira pas nécessairement que la Bible est inspirée, hein, que cet écrit est inspiré. Ça veut dire que pour l'élaboration de ce livre, élaboration qui a duré des siècles, hein, pour l'élaboration de ce livre, il faut de nouveau une illumination d'un type particulier, plutôt intérieur, dont l'action est due à l'Esprit Saint, c'est pour ça inspiré, hein, souffle de inspiration par l'Esprit Saint, inspiré par l'Esprit Saint, comme on dit. Les saintes écritures sont inspirées par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que quand nous disons cela, nous disons que ce livre n'a pu être constitué comme il est, qu'à travers une cohérence interne, et par l'effet d'une cohérence interne, qui n'est pas seulement œuvre humaine. Tu vois ? Il y a d'ailleurs eu des théories différentes hein, de l'inspiration. Pour la bonne raison qu'on s'est posé la question, et saint Thomas le tout premier s'est posé la question de savoir, mais de quelle manière l'homme est-il inspiré? Doit-il en avoir la connaissance qu'il est inspiré pour être inspiré? Est-ce que chacun a pour sa place, dans l'écriture, a un charisme d'inspiration? Est-ce que tous les auteurs qui ont participé à l'élaboration de ce livre sont inspirés? Ou seulement le rédacteur ultime? Hein? Bon. Est-ce qu'il faut considérer l'inspiration comme Mahomet, par exemple, qui a reçu dans l'oreille la dictée de l'ange Gabriel? L'ange Gabriel est venu lui dire toutes les paroles qu'il avait à dire, et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui les a écrites. Hein? C'est Ali, hein, son secrétaire, hein, qui a écrit les paroles que lui exprime. Alors, vous voyez, cette réalité d'inspiration verbatim, comme on disait, c'est-à-dire mot à mot, comme cela aurait été
sous la
dictée de l'Esprit Saint, ben, cette théorie qui a eu lieu à certains moments, que d'ailleurs saint Thomas n'a pas admise, ben, ce n'est pas une conception réaliste. Tu vois, on a fait, Karl Rahner a fait un bon article sur le sujet, hein, on a fait un parallèle entre l'incarnation sur le plan de la réalité humaine historique et l'incarnation de la parole en termes de livres. Mais évidemment, ce sont des auteurs humains qui ont écrit cela. Alors, on utilise saint Thomas, après saint Augustin et d'autres, hein, ont utilisé des images. Et voilà, l'inspiration est présente comme la musique est présente dans un instrument. L'instrument joue une musique. Cette musique est présente, mais la musique écrite et la musique jouée n'est pas exactement la même chose. Alors, l'inspiration, est-ce la musique écrite, est-ce la musique jouée? Parce qu'il faut une inspiration pour composer ses livres, et il faut une inspiration pour la lire. Vous voyez, dès qu'on se met à réfléchir un petit peu sur la réalité concrète, on doit faire constamment des distinctions. Qu'est-ce que nous faisons? Une œuvre de création. Nous séparons. Nous distinguons. Voilà. Le processus est parti.
Je suppose que saint Thomas fait appel au concept d'analogie.
Oui, forcément. L'analogie, ça, qu'est-ce que veut dire l'analogie? C'est là où ça se rapproche, ça se divise. Quand on parle de la même manière, on en parle, mais quand on dit de manière analogique, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre cela à la lettre, mais on parle des choses, on parle de Dieu d'une certaine manière, mais il faut commencer par oublier, ou par nier, négation, comme disent les théologiens, nier le concept à partir duquel nous parlons. Un exemple. On dit que Dieu est père. Mais il est justement père autrement que les hommes. Mais il est père. Et il fonde en fait toute paternité, mais la manière dont nous voyons la paternité humaine, il faut d'abord affirmer, puis nier la limite, et puis sublimer, en quelque sorte, le terme, hein, quand on parle de Dieu. On dit, il est père, d'accord, et il n'est pas père comme les hommes. Il est père d'une manière supérieure, hein, comme ça qu'on travaille. Ça, c'est l'analogie. Alors, il utilise tout le temps ce terme d'analogie, bien entendu. Karl Rahner aussi, lorsqu'il montre qu'il y a une analogie, tout de suite, hein, une analogie entre l'inspiration, la réalité de l'inspiration qui est présente dans l'élaboration, totalement dans l'élaboration de ce texte, donc depuis les premiers auteurs. Mais alors, les premiers auteurs, finalement, est-ce que ce ne sont pas les gens qui ont élaboré les Noumas et Elish et les autres consumériens? Mais oui, ils ne sont pas étrangers à ce processus. C'est un processus humain. Et cependant, ce processus humain est en quelque sorte sublimé, et la sublimation de ce processus apparaît dans l'extrême cohérence des textes. Je dis l'extrême cohérence des textes. D'abord, de chaque texte en particulier, qui a son unité, son harmonie, et qui est rempli d'une richesse qui nous dépasse, et puis dans les rapports de texte à texte, qui en fait une immense symphonie extraordinaire. Alors, quelques éléments, oui.
Mais je voulais poser la question de l'époque, puisque je dirais que la tradition et les canons de l'Église sont bouclés, on ne peut plus entrer dedans.
Attention.
Avec l'Esprit Saint qui inspire ce que l'on a.
Attention. J'ai parlé d'inspiration et on parle encore, on distingue encore inspiration dans deux sens. On parle d'inspiration constitutive des textes. Une fois que les textes sont arrivés à maturité, ils ont quelque chose de définitif. Ils sont portés à la connaissance universelle. Comme quand un peintre a achevé son tableau. Il est achevé, on le vend. Il est achevé. Et puis, il y a la tradition interprétative. Donc, l'inspiration, il faut que celui qui lit le texte entre, fasse sien, en quelque sorte, ce processus d'inspiration et découvre, par sa connaissance des textes, et mu par le même Esprit Saint qui était l'auteur ou le co-auteur des textes et en même temps qui est co-lecteur, qui est lecteur en même temps que celui qui a élaborer le texte, hein, il faut qu'il entre dans cette perspective. Alors on dit tradition ou inspiration interprétative. On n'utilisera pas nécessairement le terme d'inspiration parce que ça fait problème avec les protestants. Parce que les protestants vous diront que le texte n'est pas inspiré, il est inspirant. Ah oui, mais tout ça, c'est pas pour rien qu'on exprime les choses de telle ou telle manière. Hein? Parce que nous disons, il est inspiré et donc il est important comme texte. Et donc ma référence sera toujours le texte. Et donc aussi la littéralité du texte. Et je vais traiter le texte un peu de la manière dont j'approche le corps eucharistique ou le corps réel de Jésus. On va parler du corpus des Écritures, le corps scripturaire, le corps eucharistique, le corps scripturaire, le corps physique, le corps mystique de Jésus. Donc on fera attention à tous les mots. Mais la tradition protestante soulignera plutôt que le texte est inspirant, c'est-à-dire que quand je lis le texte, j'ai l'aide de l'Esprit-Saint qui me le fait comprendre. Ce qui est important, c'est bien sûr le texte tel qu'il est, mais c'est surtout la manière dont moi je l'interprète. Vous voyez la distinction, c'est que en utilisant nous le charisme d'inspiration du texte lui-même, en disant c'est le texte qui est inspiré, je donne une objectivité au texte plus grande que ma subjectivité. Quand je souligne qu'il est inspirant, je donne plus de subjectivité au texte que son objectivité. Vous voyez un petit peu les nuances, ce sont des nuances. Oui.
Le texte inspirant ou inspiré, interprété, ne peut jamais être en opposition et nier le texte lui-même, surtout par les évangiles.
Comment? Opposition à quoi? Le texte est une cohérence.
Oui,
donc il n'y a pas d'opposition.
L'inspiration, l'interprétation ne peut jamais être en contradiction avec, je dirais, le texte lui-même.
Donc, ah, bien sûr. Dit autrement, on ne peut pas faire dire au texte n'importe quoi. Et la plupart du temps, hein, nous attirons le texte à nous, en essayant de lui faire dire ce que nous voudrions bien qu'il dise. Et il résiste, le texte. Et c'est pourquoi il faut faire attention au texte lui-même, précisément à cause de ses résistances. Les résistances nous disent que nous n'avons pas toujours compris le texte. Et c'est vrai qu'on n'a pas fini de les comprendre. D'ailleurs, ces textes ne sont pas faits pour être compris. Hein? Ne pensons pas. L'Église s'est prononcée sur 4 ou 5 textes pour nous dire le sens profond, précis de ce texte. Voilà. Notre tradition nous permet de dire que c'est dans ce sens-là qu'il va. Mais. Pas si facile que cela. De comprendre, c'est-à-dire de percevoir le sens des textes sans mettre la main dessus. Comprendre, c'est souvent mettre la main dessus. Ça veut dire, ce texte veut dire ceci et rien d'autre.
C'est le problème de sens de l'écriture.
Mais oui, vous voyez que quand on touche un texte, on touche tout. On touche la manière de le lire, oui.
Et des choses qui ne se trouvent pas dans le texte et qui sont pourtant officielles dans l'Église. Je pense par exemple.
La fête de l'Assomption.
Dans quel domaine va-t-on mettre ces
choses-là? Quand l'Église interprète, voilà des lieux où l'Église interprète, et interprète avec une autorité qu'elle détermine elle-même, parce que l'Église détermine toujours elle-même l'autorité avec laquelle elle détermine certaines choses, hein, pas n'importe comment. Hein. Quand l'Église le fait ainsi, elle montre que c'est, elle doit le faire, et elle le fait généralement, elle montre que c'est le sens profond, parfois caché, d'un certain nombre de textes. Et ça, c'est l'inspiration interprétative et la tradition interprétative qui lui permet avec l'autorité dont elle dispose, qui lui permet de donner un sens précis ou un corps déterminé à des choses qui étaient encore éparses. Et la plupart du temps, parce qu'il faut encore souligner cela, et la plupart du temps, pour le bien des hommes à une époque déterminée, les conciles sont toujours datés. Et ce n'est pas pour rien, hein, parler de l'Assomption, pas pour rien que et l'Immaculée Conception, siècle passé, et l'Assomption, ce siècle-ci, hein, ont été déterminés de façon précise. Et pas pour rien que c'est ce siècle-ci. C'est donc que ce siècle-ci en a un besoin particulier. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir là-dessus, parce que comment l'Immaculée Conception se trouve-t-elle présente au chapitre 3, verset 15 de la Genèse, alors qu'on ne parle pas du tout d'Immaculée Conception. Ben, le terme est moderne, mais la réalité est présente dans l'Écriture. Et donc, c'est, vous voyez, c'est tout un processus dans lequel nous communions. Et c'est intéressant de voir souligner la question, parce que ça veut dire que nous appartenons au même courant. Oui ?
En fait, l'inspiration avait un motif pastoral, ce problème de l'inhérence.
Ah, oui. C'est encore un motif qui est intervenu surtout lorsque il a été battu en brèche, la question que tu as posée ce matin, et tout cela vient de Moïse. Hein. Tout ça, c'est Moïse qui l'a écrit. Alors, quand on a mis en question ce processus, mais l'Église dit la vérité, c'est Moïse qui a écrit tout. Mais oui, mais Moïse, quel est ce personnage de Moïse? C'est celui que nous nous figurons, ce que nous avons dans la tête? Ou bien Moïse est-il la manière de faire percevoir l'unité d'un message cohérent? Et pour nous, Moïse, c'est un monsieur Moïse qui est apparu à certains moments, dont on peut faire la fiche signalétique, et éventuellement les empreintes digitales sur les, hein, sur les tables de la loi. Mais oui, mais nous voyons les choses de cette manière-là. Il ne s'agit pas de ça, évidemment. Vous voyez ? Le Moïse vivant, c'est le Moïse du texte. Aussi étrange que ça puisse paraître. Et il est plus réel que le Moïse, hein, le leader politique, qui a emmené quelques centaines d'Hébreux, ce ramassis de peuples, hein, dont on parle l'Exode, ce ramassis de peuples dans le désert. Et, mais c'est notre compréhension qui doit être nuancée. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir très souvent là-dessus. Parce qu'il y a une lecture que nous pouvons faire qui est à la fois littérale, c'est-à-dire nous allons faire attention aux aspérités même du texte, et en même temps qui n'est pas fondamentaliste. Fondamentaliste, ça veut dire les choses se sont passées exactement comme c'est écrit. Bon, quel est l'observateur de la création? Nous ne sommes pas les observateurs de notre propre création. Eh bien, c'est de là, mais analogiquement, c'est la manière dont les hommes sont observateurs de leur propre création. C'est-à-dire, ils découvrent dans ce qu'ils sont leur origine. Qu'est-ce que c'est que mon origine? J'ai appris que c'est ma mère qui m'a mise au monde. Mais j'ai fait confiance, hein? Mais fais confiance. On peut dire, il y a des... Et maintenant, on prouve, hein, avec une sorte de méthode scientifique, hein, qui sont tout à fait valables, hein, on prouve que tel homme est vraiment de telle femme, vient de telle femme et de tel homme. Mais ce ne sont pas des questions que se posent ici les gens. Ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils veulent faire une réflexion profonde sur la manière dont nous existons et d'où vient notre existence. Et avant de parler de l'homme, il parle de l'ensemble du monde, de ce que nous appelons généralement la nature. La nature, c'est un mot courant pour dire les trucs qui existent et qui ne sont pas nous. La nature. Et qui ne sont pas encore travaillés par l'homme. Parce qu'alors, on parle de culture. La nature, la culture, ce n'est pas la même chose. La nature, c'est tout ce qui est donné. Et on nous dit que la nature est un donné. Mais le concept de création n'est pas du tout un concept scientifique. Hein. C'est un concept de foi, création. Là aussi, nous faisons confiance. Nous disons, ben, le monde vient de Dieu. Il faut d'abord savoir qui est Dieu, puis savoir ce que c'est que le monde. Ben voilà, c'est la question qu'on se pose. Et alors, je vais vous lire, je vais commencer par vous lire le texte de façon assez, en mettant bien sûr l'accent sur certains mots, comme je fais d'habitude, mais je vais d'abord commencer à vous lire le texte brut. Brut. En commencement, mais c'est très difficile à traduire ce mot commencement, on peut traduire aussi en prémisse, Chouraki traduira en tête, en capitale, vous voyez, toutes sortes de mots qu'on pourrait utiliser. Je dis capitale ou tête parce qu'il y a le mot rosh dans le mot réchit en hébreu, il y a le mot rosh, il y a le mot tête. Ouais. En commencement ou en prémisse ou en capitale, il créa Dieu les cieux et la terre. Sept mots pour un premier verset. Et la terre était vide et chaos, si vous voulez autrement, tohu, bohu. Tohu, vavohu. Hein, c'est la manière sémite de dire vide et chaos. Un truc là fusionnel. C'est pas très bien ce qui peut se passer. Mais il y a du vide dedans. C'est quelque chose qui est du vide. C'est drôle, hein? Quelque chose. Et ténèbres sur la face d'un abîme. Et une manière, les uns diront malhabile, maladroite, d'autres diront poétique, de dire qu'il n'y avait rien avant. Confusion et vide. Et souffle de Dieu frémissant sur la face des eaux. Voilà, ça c'est l'introduction. Deux versets d'introduction. Autrement dit, une manière de vous dire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais voilà. Souffle de Dieu frémissant. Hein. Alors, vous voyez tout de suite, je vous ai lu ce matin un passage d'un mésopotamisant qui vous montrait le châtel arabe, là, le golfe, le matin, et la brume qui se dégage, qui se pose doucement, qui se lève doucement, et puis petit à petit tout qui se dégage. Et bien, c'est cette image-là qui a été reprise. Et il dit Dieu. Ah ouais, il commence à parler. Et il dit Dieu. Sois lumière. Et fut lumière. Et il vit Dieu, la lumière, que c'est bon. Et il opéra séparation, Dieu, entre la lumière et entre la ténèbre. Hein, on avait dit que ténèbre était sur la face de l'abîme. Et il appela littéralement, il cria à la lumière, jour. Et à la ténèbre, il cria, nuit. Et fut soir, et fut matin, jour 1. Pas premier, hein, 1. Et il dit Dieu, deuxième dit, soit un firmament au milieu des eaux, et qu'il soit séparant entre eau et entre eau. Et il fit Dieu le firmament. Le firmament, c'est conçu comme quelque chose de ferme, hein? Firmamentum, hein? Une chose qui tient, dure. Une coupole, quoi. Hein? Le firmament. Et il opéra séparation entre les eaux qui sont au-dessus du firmament et entre les eaux qui sont en dessous du firmament. Et ce fut ainsi. Okay. Et il cria Dieu au firmament, « Cieux !» Et fut soir, et fut matin, jour deuxième. Et il dit Dieu, troisième dire, s'assemble les eaux de dessous les cieux en un lieu un, et soit vue la sèche. Ce que nous appelons la terre, c'est la sèche. Il y a le mouillé, il y a le sec. Et ce fut ainsi. Et il cria à la sèche, terre. Et à l'assemblement des eaux, il cria mer. Et il vit Dieu que c'est bon. Et il dit Dieu, fasse pousser la terre une pousse, herbe semençant semence, arbre à fruit faisant fruit, selon son espèce, qui a en soi sa semence sur la terre. Et ce fut ainsi. Et elle fit sortir la terre une pousse, herbe semençant semence, selon son espèce, et arbre faisant fruit, qui a en soi sa semence, selon son espèce. Et il vit Dieu, que c'est bon. Et fut soir, et fut matin, jour troisième. Donc, le voilà. Facile, hein ? Nous avons eu 3 jours jusqu'ici. Donc ici, c'est le jour, je dis bien. Alors ici, c'est ce qui a été fait, disons, l'œuvre. Et puis le détail. Donc pour ce qui est le détail ici, dans la première partie, vous aurez remarqué chaque fois que Dieu opérait en séparant, séparation. Voilà. Ici, on travaille en séparant. Il y a effectivement un premier jour, un second jour et un troisième jour. Là, ça va bien. Hein? C'est chaque fois ponctué, jour 1, jour 2e, jour 3e. Et on voit que dans le premier cas, la séparation, c'est une séparation entre lumière et ténèbres. Voilà, c'est ça. Ouais, donc lumière et ténèbres. Voilà. Ça qui se passe. Donc c'est de l'ordre de la lumière, de ce qui se voit. Puis nous avons vu que dans le deuxième jour, il s'agit de séparer les eaux. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ici, ce sont des étages. Là, c'était une succession. Hein, voyez bien, lumière, ténèbres, ça va faire jour, nuit. Hein, donc ça, c'est une succession dans le temps. Et puis ici, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est une séparation dans l'espace. On travaille avec le concept humain, tout à fait. Seulement pour le jour troisième, vous voyez que Dieu a dit deux fois des choses. Hein, deux choses. Et au lieu d'avoir une seule œuvre, on en a deux. Petite différence ici. Il y a un, il y a deux, et il y a trois et quatre. On ne travaille pas exactement de la même manière dans le troisième, dans le, ce qui va être le troisième jour. Effectivement, on dit que s'assemblent les eaux, et donc vous allez avoir la terre, la sèche et la mer. Et puis, on voit en plus les pousses qui arrivent. Hein? Donc, il y a les plantes de la terre. Donc, en dessous de la terre, il y a les plantes. On ne dit rien de la mer, mais on parle de la terre qui devient, qui pousse. Et du fruit. On parle de plantes et on parle de fruits. Intéressant aussi de voir que les portes ont fruit. Et qu'elles ont semences. C'est-à-dire qu'elles portent quelque chose qui va leur permettre de continuer le processus eux-mêmes. Et c'est ici que ça arrive. Jusque-là, on séparait. Maintenant, si. Mais selon les espèces. C'est toujours selon les espèces. Vous voyez donc, chacun, hein, on sépare bien les choses, les unes et les autres. Bon. Voilà donc ce que nous avons jusqu'ici. Et nous avons quatre œuvres et quatre dires de Dieu. Il a dit quatre fois. Vous voyez que le plan est déjà un petit peu plus complexe que simplement hein, sept, comme nous avons en tête. Je continue, verset 14. Et il dit Dieu, soit des luminaires au firmament du ciel, au firmament des cieux plutôt, c'est toujours un pluriel, pour opérer séparation, vous voyez, ça continue, entre le jour et entre la nuit, et qu'ils deviennent signes pour les convocations, c'est-à-dire pour les fêtes, pour des jours, c'est-à-dire pour des saisons, et pour des années. Donc on va avoir un système, on va élaborer un système hein, de compute. On va numéroter les jours, les fêtes, etc. Et vous voyez que il souligne le mot fête. Les fêtes sont liturgiques dans le monde sacerdotal qui a élaboré ce texte. Et qu'ils deviennent, donc soit des luminaires au firmament, et qu'ils deviennent luminaires au firmament des cieux pour illuminer sur la terre. Ils sont au firmament, mais ils illuminent la terre. Et ce fut ainsi. Et il fit Dieu les deux grands luminaires, le luminaire grand pour le gouvernement du jour, et le luminaire petit pour le gouvernement de la nuit.